13h, 14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Ravie de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Vous connaissez le principe Tout Terrain, c'est l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Et pour ce dernier Tout Terrain de la saison, je vous propose une plongée exceptionnelle au cœur de ce qui se prépare pour le défilé du 14 juillet. En exclusivité pour Europe 1, on embarquera avec Didier François. Il a pu monter à bord d'un avion espion, le Transall Gabriel, celui qui est les yeux et les oreilles de l'armée française, en particulier dans la lutte contre Daesh. Pour la première fois, ce gros porteur volera au-dessus de Paris dimanche prochain lors du défilé. Le défilé aérien, ce sera l'un des clous justement du spectacle sur les Champs-Élysées. Jean-Gabriel Bourgeois est monté à bord de l'hélicoptère depuis lequel les pilotes ont repéré le parcours. Impressionnant. Et puis autre temps fort de ce défilé du 14 juillet, ce sera l'hommage aux militaires blessés en mission. Victor Delande est allé à la rencontre de ces hommes en pleine reconstruction. Dans Tout Terrain, Martin Fenot nous racontera la drôle de traversée des Alpes d'hommes en armure. Et puis en ce début de vacances, Diane Chidouda nous emmènera au cœur des paysages de Cézanne, près de la montagne Sainte-Victoire, revisitée par l'artiste Fabienne Verdier, qui expose en ce moment à Aix-en-Provence. Voilà pour le programme. Tout Terrain, c'est parti.
Europe 1, Tout Terrain, Fabienne Lemoyle.
Et pour cette dernière de la saison, je vous invite à une plongée exceptionnelle au cœur de ce qui se prépare pour le traditionnel défilé du 14 juillet. Il aura lieu la semaine prochaine sur les Champs. Plusieurs reporters d'Europe 1 ont pu en avant-première suivre ces préparatifs et ils vont tout vous raconter. Alors à l'honneur cette année, il y a la coopération entre les pays européens. Il y aura aussi une image très forte, les blessés de guerre qui vont fermer le cortège sur les Champs-Élysées. Et puis, coup de projecteur sur les innovations. Et c'est là qu'entre en scène Didier François. Bonjour Didier.
Bonjour.
Grand reporter et spécialiste défense à Europe 1. Vous serez d'ailleurs sur les Champs-Élysées pour nous faire vivre ce défilé dans une semaine. Combien de défilés déjà à votre actif ?
Sur la tribune présidentielle, c'est le 11e.
Voilà, le 11e pour Europe 1. Pour la première fois, il y aura dans les airs le Transall Gabriel qui va survoler Paris pour ce 14 juillet. Et cet avion espion, on va comprendre pourquoi je dis ça dans un instant, vous avez pu en exclusivité monter à bord lors d'une séance d'entraînement. Alors c'est vraiment une première Didier, et on va le voir, c'est un peu le bureau des légendes en vol ce que vous avez vécu. Déjà, il ressemble à quoi ce gros porteur et il sert à quoi ?
Alors c'est quand même la première fois qu'il est présenté au public, ce sont des gens extrêmement discrets, les gens de l'escadron Dunkerque du Transall Gabriel, parce que c'est un avion de renseignement. Alors de l'extérieur en fait il ressemble à un avion normal, ça ressemble à un Transall, avec quelques petites choses qui attirent l'attention quand même. Il a quelques antennes sur le toit qu'on ne trouve pas sur le Transall normal. Il a un radom caché sous le fuselage.
Un radom, traduisez-moi.
Alors c'est une boule qui est remplie d'électronique, puisqu'en fait cet appareil fait du renseignement électromagnétique, c'est-à-dire qu'il est capable de capter les ondes radar et aussi les communications, qu'elles soient téléphoniques ou radio. D'ailleurs, on va vous l'expliquer, le chef d'escadron va présenter son appareil.
Transall Gabriel, c'est un avion de renseignement. Notre mission, ça va être de détecter, de localiser, de comprendre ce qui se passe au sol. C'est-à-dire que le Transall Gabriel, c'est une éponge qui va avoir l'ensemble des ondes électromagnétiques autour de lui, qui va lui permettre de savoir où sont des radars, qui parlent dans la zone et de comprendre ce qui se passe. Et nous avons également une composante image qui nous permet de voir et de confirmer notre renseignement en temps réel.
Et à bord, vous avez des traducteurs, ce qui fait que si vous entendez une communication radio, par exemple, de terroristes, vous pouvez l'analyser.
Voilà, l'avion en lui-même va récupérer ces informations, mais ce sont nos opérateurs, donc des sous-officiers renseignement de l'armée de l'air, qui vont analyser, écouter et pouvoir nous dire s'il y a des menaces contre les forces, des menaces contre la France, et pouvoir transmettre ces informations-là au commandement opérationnel.
Donc voilà, le chef d'escadron a bien planté le décor. On va revenir dans le détail hein, sur les différents métiers qui se trouvent à bord de ce Transall Gabriel. Mais il opère où cet avion précisément ?
Alors, il opère sur l'ensemble des zones d'intérêt stratégique, des zones d'opération.
Et en ce moment, on imagine ?
Vous voyez bien les zones qui sont les intérêts. C'est la protection des Français dans l'appui à la lutte contre le terrorisme.
Donc la zone irako-syrienne.
Irako-syrienne, sur le Sahel aussi. Et fait de la protection de nos troupes aussi, puisqu'il est capable, en interceptant les communications ennemies, de survoler de manière discrète et assez loin un convoi qui pourrait être attaqué. Parce que vous savez bien que les terroristes mettent des guetteurs, mettent des mines. Eux, ça leur permet de voir si justement ce convoi est suivi, s'il y a les ennemis commencent à se préparer pour faire une embuscade. Ça peut surveiller des navires, par exemple, qui seraient dans des ports où on n'avait jamais dit qu'ils étaient.
Alors, on va monter à bord de cette éponge, comme dit le chef d'escadron. Je crois qu'on voit bien l'image. On embarque tout de suite.
Donc, je suis intercepteur technique au niveau radar. Donc, nous, en fait, on va intercepter tout ce qui est radar. Sol, air, bateau. Et en fait, le travail, c'est à chaque fois qu'on a une fréquence et ses paramètres, de savoir en fait ce que c'est, d'intercepter, d'identifier et de localiser.
L'exploitation va avoir pour but d'être le Wikipédia de l'avion. C'est-à-dire que je vais être les archives et à partir de là, par rapport aux intercepteurs qui, eux, vont être les oreilles, moi, je vais être les yeux.
Voilà, vous avez pu promener votre micro à bord du Transat Gabriel. Alors, ces deux métiers qu'on vient d'entendre ?
Alors, donc là, vous avez l'opérateur qui s'occupe des radars, donc qui permet de faire la cartographie d'une zone. Par exemple, 2001, la Libye. La France décide d'intervenir en Libye. Il faut faire rentrer des mirages ou les rafales. Bien entendu, on ne va pas les envoyer comme ça à l'aveuglette. Donc, 6 mois avant, le Transat Gabriel était déjà sur zone et lui était capable, ravitaillé en vol, de nuit, sans protection aucune, de partir à partir de la Méditerranée, d'aller jusqu'au sud de la Libye vers le désert et en route de vérifier où étaient les défenses antiaériennes, les missiles, etc. pour que le jour où l'état-major français décide de dire à ses pilotes de chasseurs-bombardiers en avant, et ben ils puissent y aller dans les meilleures conditions possibles.
Donc on voit combien c'est précieux. Ils sont combien en tout à bord ?
Il y a 9 personnes en plus de l'équipage qui sont à bord et qui travaillent donc dans les 3 domaines de renseignement qui sont les communications radar, les communications en interception et puis surtout aussi les capacités à connaître les modes de transmission des ennemis. Voilà.
Alors, on a bien compris.
C'est ce qui est drôle aussi, c'est que, honnêtement, ça ressemble à un vieux studio de radio. Parce que c'est quand même un peu bruyant, mais donc ils ont essayé de mettre autour de la,
de la
tranche. C'est capitonner la tranche arrière. C'est pas. Voilà, c'est.
Alors, vous étiez du coup dans un univers familier, on va dire. Alors, on a bien compris, cet avion, il est bourré de technologie. Il a pour but d'informer au mieux les forces sur les mouvements et les intentions des ennemis. Et vous avez rencontré aussi l'officier de renseignement qui est à bord. C'est précisément son rôle ?
Alors lui, c'est vraiment lui qui centralise les 3 formes de renseignement que sont capables sur place, à bord, de récupérer les capteurs de l'avion. Pourquoi ? Parce qu'en regroupant tout ça, eh bien, ils vont prendre les choses parcellaires pour en faire un renseignement activable, qui puisse être utilisé. Ils peuvent aussi orienter, par exemple, des photographes à bord qui vont aller voir la cible. Ça permet de voir, effectivement, si une communication qu'on a entendue, c'est bien des terroristes, qui sont 4 à bord, qui ont un drapeau de l'EI, qui ont des intentions hostiles, et donc de pouvoir les localiser.
C'est ce qu'il vous a expliqué.
Le but est vraiment d'avoir la connaissance la plus fine du dispositif ennemi, et ensuite, lors du vol, pouvoir analyser chaque signal faible. Il faut imaginer que chaque heure de vol à bord de l'avion va amener en fait une récolte d'énormément de données qui vont devoir être analysées ensuite en temps différé au sol pour pouvoir aller chercher des fois les petites pépites qu'on n'a pas pu voir en temps réel parce qu'il y avait un afflux de données trop important pour consolider notre connaissance du théâtre. On travaille à la fois au niveau tactique au profit des forces au sol mais également au niveau stratégique pour anticiper les crises et voir les déroulements potentiel dans les semaines, voire les mois à venir.
Donc on comprend pourquoi ce Transat Gabriel est si précieux pour l'armée française. On va faire une pause, Didier, et dans un instant, on va poursuivre cette plongée, je le disais, passionnante au cœur de cet avion espion, le Transat Gabriel qui, pour la première fois, va participer au défilé du 14 juillet, que vous nous faites découvrir en exclusivité pour Europe 1. Et on va voir qu'à bord, il y a aussi d'autres personnages clés, les traducteurs.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1 avec vous, Fabienne Lemoyle.
Séquence exceptionnelle, je vous le disais cette semaine dans Tout Terrain sur les coulisses de ce qui se prépare le 14 juillet. On poursuit notre visite à bord du Transat Gabriel. Pour la première fois, il va survoler Paris le 14 juillet prochain. Un avion à bord duquel vous avez pu embarquer en exclusivité, Didier François, lors d'une séance d'entraînement que vous nous faites donc découvrir dans Tout Terrain. Je le disais avant la pause, Didier, parmi les personnages clés dans cet avion, il y a des traducteurs. Ils sont combien ?
Alors donc, les traducteurs, ils sont trois.
Et qui traduisent quelle langue ?
Alors, bah, ça va dépendre de la mission, mais ils ont des langues extrêmement rares. C'est d'ailleurs, il y a un vrai besoin. Par exemple, bah, je ne sais pas si vous volez sur des endroits où il y a des Touaregs, bah, il y a des gens qui parlent le tamashek. Si vous allez, bah, là, dans le cas particulier, c'est quelqu'un qui parle arabe, mais il peut y avoir des gens qui parlent des langues extrêmement exotiques. Ils en recherchent d'ailleurs beaucoup. C'est quelque chose d'incroyable parce que la force du Gabriel, c'est qu'ils écoutent en direct. Ils arrivent à comprendre les accents, à connaître les gens qu'ils écoutent, à savoir s'ils sont stressés, pas stressés. Enfin, c'est vraiment très étonnant. C'est un outil absolument incroyable.
Eh bien, on va écouter le linguiste arabe qui était à bord ce jour-là du Transal Gabriel.
Donc, pour ma part, je suis linguiste arabe. C'est-à-dire que sur une certaine gamme de fréquences données qui nous intéresse, l'opérateur va balayer en permanence. C'est-à-dire tout ce qui parle, tout ce qui est en signal clair, phonie, on va s'arrêter dessus, écouter, voir ce qui se dit, essayer de localiser la fréquence. Et la traduire, bien évidemment, en temps réel. Donc, quand je dis localiser, c'est très important, c'est presque la moitié du travail, parce que non content de traduire ce que disent les gens, les ennemis, les méchants, on va dire, au sol, il faut également savoir où ils se trouvent. Donc, généralement, on a quand même une partie renseignement qui est faite en amont, qui va dégrossir le travail, qui va nous dire, voilà, vous risquez d'avoir du méchant, du Daesh, par exemple, dans telle gamme de fréquences. Le fait de traduire en temps réel, ça nous permet de faire le tri immédiatement et d'orienter l'avion, le capteur, dans tel endroit, dans tel secteur. On sait qu'il y a du méchant. Là, on entend des tirs, il y a des combats. Ou alors là, ça va être plus des fréquences logistiques. Ça parle d'approvisionnement, de ravitaillement. Ça va permettre de savoir où sont les nœuds logistiques, où sont les combats.
On entend le linguiste qui dit traduire en temps réel. Ça veut dire quoi concrètement ?
Eh bien, ça veut dire que concrètement, ils interceptent la communication, ils écoutent ce qu'il se dit. Et ils transmettent ça immédiatement, alors en général par chat. S'il y a un renseignement d'intérêt qu'il faut exploiter immédiatement, ils l'envoient à l'officier de renseignement qui, lui, justement, agrège l'ensemble des renseignements aussi qui vont être interceptés par les gens qui font les signaux ou les radars. Et il va mettre tout ça ensemble, voire le photographe qui va confirmer que la cible est bien une cible d'intérêt. Et il va, lui, mettre tout cela en forme pour pouvoir orienter le capteur. À la limite, il va appeler les pilotes dans la cabine en leur disant « Écoutez, on refait une passe, hein, parce que là, c'est vraiment intéressant. » Ils se mettent à parler parce que des fois, il faut attendre quelques temps, c'est comme à la pêche, c'est pas toujours simple.
Et on va voir justement, ça peut se traduire par des opérations très ciblées.
À terme, si on reste suffisamment longtemps sur un certain théâtre, on va finir par s'habituer à la voix, connaître des cibles d'intérêt, même parfois ça peut être une personne en particulier. Donc là, on va suivre cette personne, essayer de remonter un peu le réseau, savoir avec qui elle travaille, comment elle travaille, si elle est tête de liste, ou alors si c'est juste une personne subalterne qui n'aura pas un grand rôle dans le dispositif. Clairement, on a souvent des cibles identifiées à suivre. On connaît leur nom, on connaît leur pseudo. Et là, à partir de ce moment-là, on ne les lâche plus. En permettant de localiser l'ennemi, on va permettre derrière d'agir. En ayant une certitude que l'ennemi se trouve à tel endroit, on va pouvoir actionner tout le reste des forces, avions de chasse, renseignements au sol, troupes au sol. Voilà, on va les orienter, en fait.
C'est ce qu'on appelle le ciblage.
Tout à fait, exactement. L'avion fait beaucoup de ciblage, tout à fait.
Ciblage, Didier, on va traduire pour être concret.
Ciblage, concrètement, c'est toute cible d'intérêt, donc dont alors ça peut être un poste de commandement ennemi, ça peut être un responsable terroriste de Daesh.
Mais ça veut dire par exemple si on veut faire des frappes aériennes.
Bien sûr, il y a eu sur les deux dernières années, grâce à des renseignements tactiques obtenus en direct par le Gabriel, il y a eu 350 frappes d'organisées, donc sur des cibles.
Et on pense particulièrement à l'EI.
Par exemple, mais il y a eu aussi 21 arrestations qui ont été faites grâce à ça. Ça peut être ils peuvent activer aussi des commandos qui vont des opérateurs des forces spéciales qui vont aller arrêter ou intercepter ou libérer des otages, par exemple. Voilà, vraiment, c'est aujourd'hui, ils sont extrêmement intégrés dans cette manœuvre, ce qu'on appelle le renseignement à fin action. Et là, depuis 2011, vraiment la force aujourd'hui du dispositif français, c'est cette capacité d'intégration du renseignement qui vient de tout le monde. En fait, le geste du commando à la fin, 80% de l'opération avant, elle a été faite par la préparation du renseignement qui vient de partout, qui vient des services de renseignement extérieur, de la DGSE, qui viennent de la DRM, du renseignement militaire, qui viennent parfois de nos alliés, ça peut être les Américains. Tout ça est intégré, mis ensemble. Et le Transal Gabriel, mais d'autres moyens d'interception permettent aussi ensuite d'affiner au niveau tactique. Il faut orienter, il faut trouver, il faut fixer, il faut agir. Et puis après, cette boucle recommence. C'est vraiment le travail essentiel aussi de l'antiterrorisme. C'est vraiment, il faut avoir en tête que ces gens-là sont aujourd'hui notre première ligne de défense à l'étranger. Et vraiment, ils font un travail absolument formidable de ce point de vue-là.
Ça veut dire que le Transal Gabriel a été engagé, par exemple, dans la libération des otages dont on a beaucoup parlé par le commando Hubert ?
Il peut l'être.
Un dernier mot, Didier. C'est donc la première fois que ce Transal Gabriel, il y a un exemplaire unique, j'imagine.
Alors, il y a deux avions, en fait, hein, pour pouvoir garder justement cette cette capacité en permanence. Donc un avion est en réparation ou en maintenance pendant que l'autre, l'autre est en mission. Mais ce qui compte d'ailleurs plus que l'avion, ce sont les équipes, ce sont ses capacités. L'escadron est assez petit, hein, c'est comme le... Vous parliez du commando humain, mais c'est à peu près du même volume. C'est une centaine de personnes. C'est pas énormément de gens, mais c'est des gens qui sont d'abord extrêmement motivés, extrêmement compétents. Et donc voilà, il faut, si on veut monter en capacité, il faut aussi grossir les équipes. Hein.
Donc on imagine la fierté qu'ils ont à survoler Paris le 14 juillet prochain.
Ah bah évidemment, enfin c'est des hommes de l'ombre qui sont extrêmement discrets. Ils n'attirent pas l'attention sur eux. Ce défilé-là met vraiment à l'honneur tout ce qu'ils ont fait sur les dernières années.
Et ils vont passer dans quel ordre ?
Alors ils sont au milieu du défilé. Ils vont être derrière. On a fait un vol d'entraînement, donc on a vu les avions qui étaient devant. Il y a un avion portugais, un avion allemand, et qui sont les avions de transport. Et eux volent seuls tranquillement. Ils passent en fait, 9 minutes 13 derrière le H1, donc le moment où la patrouille de France passe au-dessus de la tribune présidentielle.
Voilà, c'est très précis. Merci beaucoup Didier François. Je vous demandais ça parce qu'on va poursuivre cette séquence des coulisses de ce qui se prépare le 14 juillet, justement sur les préparatifs du défilé aérien. C'est Jean-Gabriel Bourgeois qui a pu assister au repérage par les pilotes pour savoir justement le parcours qu'ils vont faire dimanche prochain. Et ce sera dans un instant. Merci beaucoup Didier.
Il est 13h20 et on retrouve Fabienne Lemoyle pour la suite de Tout Terrain, l'émission Grand Reportage d'Europe 1.
Longue séquence dans Tout Terrain, je vous le disais aujourd'hui, sur les coulisses des préparatifs du défilé du 14 juillet, ce sera la semaine prochaine. Le clou du spectacle, c'est bien sûr le défilé aérien. Bonjour Jean-Gabriel Bourgeois.
Bonjour Fabienne.
C'est vous qui avez assisté aux préparatifs de ce défilé aérien. On vient d'entendre Didier François qui était à bord du Transal Gabriel qui pour la première fois survolera les Champs-Élysées. Mais vous, vous avez été avec les pilotes qui font des repérages. C'était il y a 3 semaines et c'est à ce moment-là que vous les avez donc rencontrés.
Oui, voilà. Première étape le 12 juin sur la base aérienne 107 à Villacoublay. Tout se prépare avec les principaux acteurs du défilé aérien, les pilotes mais aussi les navigateurs, des Mirages, Rafales, ravitailleurs, les hélicoptères Caïman, Tigre ou Gazelle, un balai d'une 60aine d'avions et près de 40 hélicoptères. Ça se met en scène minutieusement. Et cette année, ce sont les forces armées européennes qui sont mises à l'honneur avec la présence des Italiens, des Espagnols, des Anglais, des Danois, des Belges, des Hollandais et des Allemands.
Et alors, avant d'embarquer avec eux à bord d'un hélicoptère pour faire le repérage du parcours, ils ont eu un briefing et ça s'est passé au sol.
Voilà, le matin, c'est briefing à Villacoublay. Cette année, la presse n'était pas convié. Alors comment ça se passe? Réponse avec le lieutenant-colonel Aurélien, le coordinateur du défilé aérien.
Ce que les équipages doivent retenir, c'est leur positionnement, leur heure de passage, mais également tout ce qui a trait à la sécurité pour pouvoir faire cette opération, car il s'agit bien d'une opération en toute sécurité. Ce qui est important, c'est évidemment la précision donc dans l'exécution de la mission, qu'elle soit la tenue de position, mais également la tenue du timing, donc passer à l'heure au bon endroit pour être bien représentatif de la rigueur et du professionnalisme dont on fait preuve et faire ça en toute sécurité.
Là, j'ai du mal à vous entendre, Jean-Gabriel. Donc là, vous êtes monté à bord. On va baisser un peu le son en régie. Là, vous êtes à bord de l'hélicoptère après le briefing. Donc, les pilotes partent repérer le parcours.
Voilà, c'est ça. On est à bord d'un hélicoptère, un Fennec précisément. C'est un petit hélicoptère. Les premières consignes sont données pour sortir en cas d'évacuation. Donc, on s'installe, on boucle sa ceinture. On met un casque spécial pour pouvoir se parler avec le pilote. Et puis, dans l'hélico, il y a aussi une collègue photographe et 2 pilotes d'appareil qui défileront le 14 juillet.
Alors voilà, vous êtes installé et après, quel est le parcours et comment ça se passe? Racontez-nous.
Et bien alors, on décolle de Villacoublay, on passe au-dessus du château de Versailles, on voit bien les jardins qu'on reconnaît tout de suite évidemment. On longe la Seine jusqu'à se positionner dans l'axe qu'emprunteront les avions, les hélicoptères.
Donc comme si vous étiez en fait à bord d'un Rafale, sauf que là évidemment c'est un hélicoptère. Les pilotes repèrent effectivement les lieux comme lorsqu'ils seront dans l'avion pour suivre la bonne trajectoire.
C'est ça, on passe vraiment... ce que feront les avions, les hélicoptères au moment du 14 juillet, la semaine prochaine. Vraiment, on arrive au-dessus des tours de la Défense, on passe au-dessus des Champs-Élysées. Vous pourrez voir des quelques photos que j'ai mises à disposition d'Europe1.fr. Et puis évidemment, c'est très 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 impressionnant de voler au-dessus de Paris, alors que c'est interdit en temps normal. On voit vraiment tout, la butte Montmartre sur la gauche, on voit les quais de Seine, on voit le siège d'Europe 1 à droite.
On vous envie là. Hein.
Voilà. Et pour pendant le vol, effectivement, Fabienne, vous le disiez, c'est l'occasion pour les pilotes qui vont défiler d'identifier des points de repère visuels qui vont leur servir pendant toutes ces manœuvres. Le commandant Charles pilote le ravitailleur Phoenix.
La défense est un bon point de repère et en amont, il y a un rond-point au milieu d'une forêt et un pont sur le fleuve, des points de recalage. Mais si la visibilité est bonne, la défense devrait bien se voir. Et je pense qu'on ne devrait pas se louper.
Alors, on entend qu'il passe au-dessus de la défense. Hein. C'est un endroit avec des points culminants, comme on dit. C'est ça la principale difficulté, le principal obstacle qui les inquiète ?
Alors non, ce n'est pas vraiment un obstacle, c'est plutôt un point de repère, vraiment. C'est vraiment un point caractéristique, comme ils disent, pour ensuite atteindre les Champs-Élysées et passer au-dessus des Champs-Élysées jusqu'à la tribune présidentielle et ensuite repartir pour rejoindre un endroit où ils sont stationnés ensuite.
Parce que c'est ce que vous m'avez dit, en fait, certains vont décoller la semaine prochaine de Villacoublay, mais certains vont arriver d'Istres ou... Mont-de-Marsan,
tout
suivant
à fait. C'est vraiment,
la base où ils sont en
voilà,
temps
normal. Soit ils stationnent normalement à Lambiouet, à Saint-Dizier ou dans le Cher. Ils mettent une heure et demie, ça dépend de l'endroit d'où ils partent. Et ils attendent leur heure de passage. Ça dure 3 minutes chacun, au-dessus des tours de la Défense, des Champs-Élysées et la tribune présidentielle. Et ensuite, ils repartent, soit dans leur base directement, donc effectivement Istres, Bourges ou Saint-Dizier par exemple, ou alors certains même rejoignent des meetings aériens qui sont prévus spécialement pour le 14 juillet.
Qu'est-ce qui vous a impressionné ?
Alors, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la concentration des pilotes avec qui j'ai discuté. L'ambiance était quand même un peu détendue avant le décollage sur le tarmac, avant qu'on monte dans l'hélicoptère. Mais une fois à bord, pendant le vol de reconnaissance, c'était vraiment, on redevient sérieux. On profite quand même du paysage parce que certains m'ont quand même dit que c'est pendant ce vol de reconnaissance qu'ils allaient pouvoir profiter de la vue sur Paris, parce que pendant le défilé, le 14 juillet, ils vont quand même être concentrés sur leur manœuvre.
Ils sont vraiment aux commandes de leur appareil.
Exactement, ça demande beaucoup de technicité pour que tout soit symétrique et que la beauté globale soit au rendez-vous. Et puis j'ai trouvé aussi beaucoup de fierté pour tous ces premiers participants pour leur défilé, comme par exemple le lieutenant-colonel Guillaume, qui est un navigateur de Rafale.
C'est ma première participation ce 14 juillet, après plus d'une dizaine d'années maintenant dans les forces. Alors il y a une certaine excitation parce que c'est quand même un événement particulier, y compris techniquement, à réaliser. Et puis il y a une certaine fierté aussi d'être un des représentants de mon escadron à participer à cette belle manifestation. C'est quelque chose qu'on fera une fois, peut-être deux fois pour certains dans leur carrière.
Voilà, on entend effectivement la fierté. On comprend aussi combien tout ça est calibré, millimétré. On entendait Didier François qui nous le disait au début de cette séquence de tout terrain. Merci beaucoup Jean-Gabriel Bourgeois. Ce sera donc la semaine prochaine ce défilé aérien. Dans un instant, on va parler de ceux qui vont défiler en dernier sur les Champs-Élysées. Image très symbolique, ceux qui ont été blessés en mission justement.
Il est 13h30, la suite de Tout Terrain sur Europe 1 avec vous Fabienne Lemoyle.
Et on poursuit cette séquence de Tout Terrain consacrée aux coulisses de ceux qui se préparent pour le défilé des 14 juillet. Je vous le disais, plusieurs reporters d'Europe 1 ont pu assister aux préparatifs de ce défilé en avant-première. L'une des images fortes du week-end prochain, ce sera sans conteste ces hommes blessés en mission. Ils seront les derniers à descendre les champs. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Fabienne.
Vous avez justement rencontré l'un de ces 28 soldats qui va descendre donc les champs, ouais, pour clore le défilé. Il s'appelle Guillaume.
Oui, Guillaume était chef de patrouille d'escorte de convoi au sein du 121e régiment du train. Il était sur un convoi logistique au Mali lors de l'opération Barkhane. Son accident s'est produit en 2016. À l'époque, il avait 29 ans. Son véhicule a sauté sur une bombe artisanale. Il a eu une partie de la fesse arrachée, un écrasement du nerf sciatique, une fracture du fémur et une luxation de la cheville. Une très grosse période d'indisponibilité, bien évidemment. Et ensuite, le choc psychologique, des mots encore plus durs, un sentiment d'impuissance, d'inutilité au sein de cette institution qu'est l'armée. 3 ans après, il a déjà beaucoup de distance quand il parle de ses séquelles par rapport à d'autres blessés plus lourds.
Quand on vit quelque chose d'aussi violent, dire qu'on n'a pas de séquelles, ce serait mentir, je pense. Après, à l'heure actuelle, comparé à certains de mes camarades qui ont des syndromes post-traumatiques lourds, entre guillemets, moi ça va.
Aujourd'hui, il a encore de très fortes douleurs dans la jambe, des raideurs qui lui compliquent la vie. Mais il y a quelques mois, il a finalement réintégré son service sur un poste administratif.
Et on entend la pudeur à travers les mots qu'il emploie et les camarades qui ont eu d'autres blessures. On imagine combien pour ces hommes blessés en mission, c'est important d'être mis à l'honneur parce qu'on va le dire, ça a été longtemps un sujet tabou au sein de l'armée.
Oui, comme il me l'a confié, il a enfin l'impression d'être considéré en tant que personne à part entière. dans cette institution justement qui ne s'est pas toujours attardée hein, sur les gens qui vont moins bien. Il est très très fier de défiler auprès de ses 27 autres frères.
Et c'est dans un cadre très particulier que vous l'avez rencontré, Victor, puisque c'est dans le cadre d'un stage d'équithérapie. Alors ça veut dire qu'en gros, ces blessés se retrouvent au contact des chevaux. C'est une thérapie qui a été mise en place spécialement par l'armée.
Oui, tout à fait, tout près d'Orléans, en pleine nature. Ce jour-là, une quinzaine de blessés de guerre accueillis, dont Guillaume, avec ce stage d'équithérapie. Sous un grand manège, on les fait d'abord entrer en contact avec des poneys. L'adjudant-chef Benoît du département blessés militaires et sports leur présente d'abord les caractéristiques de ces animaux.
C'est important, ce sont des animaux qui n'ont aucun jugement.
Et du coup, si on a une souffrance physique, ils vont ressentir la souffrance physique si
peut-être.
Caresser ces poneys, les analyser avant de les apprivoiser, on voit des sourires tout de suite sur ces visages habituellement plus fermés. Après une heure de contact, ceux qui ne sont pas trop handicapés partent en balade sur des chevaux cette fois. Une heure de balade au pas, autant de petits gestes qui font du bien, comme l'explique l'adjudant-chef Benoît.
Ce contact avec l'animal comme le cheval est un animal qui ne juge pas en fait. Un animal qui vit vraiment au moment donné et qui n'a pas de projection. Le cheval va leur apporter de la sociabilité et notamment du bien-être. À partir du moment où ils vont se sentir bien, à l'aise, être avec les camarades, être avec son animal, eh bien, c'est ça qui va avoir une progression très rapide sans mettre trop de technique.
On retrouve Guillaume justement après sa balade et quelques tours au trot dans un manège extérieur, très à l'aise. Un immense sourire sur son visage, Guillaume apprécie ce contact avec les pur-sang.
C'est vrai que là, ça fait un rapport particulier, homme-animal, c'est tout de suite un peu plus intime parce que, bon, comme le disait le moniteur, l'animal comprend par rapport à ce qu'on projette comme odeur, etc. Et donc ça crée quand même un lien. Et c'est vrai que ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien, on va pas se mentir. Voilà, je suis arrivé un petit peu stressé et je repars, je suis content.
Voilà, on sent vraiment que le contact passe entre l'animal et ses blessés. L'idée, c'est pas de guérir, c'est de reprendre confiance en eux, c'est ça?
Oui, et ça marche, hein, Fabienne. Je peux vous dire qu'à la fin de la journée, ils ne sont pas du tout dans le même état d'esprit qu'au début. La convalescence sera encore longue pour Guillaume et pour ses autres frères d'armes. Il sait aussi qu'à tout moment, son esprit peut se perdre et flancher à nouveau. Mais toutes ces expériences mises en place par l'armée, et notamment au travers du sport, sont autant de petits pas vers la guérison.
Merci beaucoup Victor Delangue de nous avoir fait découvrir cette séance très particulière d'équithérapie. Et c'était d'autant plus important d'en parler dans tout terrain qu'on l'a bien compris. Ce sont en partie ces blessés qui seront mis à l'honneur du défilé du 14 juillet, dont on vient de vous offrir une longue séquence dans tout terrain. Je vous le disais, de manière assez exceptionnelle, puisque traditionnellement, on vous raconte les coulisses après. Et bien là, c'est juste avant le défilé, pour vous donner un avant-goût de ce que vous entendrez sur l'antenne la semaine prochaine. Merci beaucoup, Victor.
Merci à vous, Fabienne.
Europe 1.
Allez, on referme cette séquence exceptionnelle, on le disait, au cœur de ce qui se prépare pour le 14 juillet. Et dans un instant, on part dans les Alpes avec de drôles de visiteurs en armure.
Jusqu'à 14h, c'est tout terrain sur Europe 1, l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Et c'est avec vous, Fabienne Lemoyle.
Direction maintenant la frontière italienne au cœur des Alpes avec une scène digne des visiteurs que nous racontait Martin Fenot. C'était mercredi dans la matinale de Nikos Aliagas.
Je suis entouré d'hommes en armure de chevalier du 16e siècle. Ils s'apprêtent à passer de l'autre côté de la montagne, traverser la frontière italienne à pied.
Bonjour Martin Fenot.
Bonjour Fabienne.
Mais quels sont donc ces drôles de personnages que vous avez rencontrés cette semaine?
Alors effectivement, ça a été un peu notre réaction. Quand on est tombé sur l'article de la presse locale qui parlait de ce projet, on s'est dit mais qui sont ces deux fous hein, qui vont randonner en armure, en plein été, dans les Alpes? Donc on a voulu en savoir un peu plus. Alors je suis allé les rencontrer quelques jours avant le début de leur aventure près de Grenoble. À ce moment-là, ils sont en train de briquer leurs armures, de véritables armures de chevaliers. Ils sont deux en fait à l'origine de ce projet. Alors il y en a un qui est historien, Stéphane Gall, et l'autre champion cycliste paralympique, Patrick Seria. Mais ils sont vraiment tous les deux passionnés d'histoire et donc ils m'ont expliqué que leur idée, en fait, elle est partie d'un événement historique. Il y a plus de 500 ans, à l'été 1515, le roi François Ier traverse les Alpes, l'école alpin alors de Var et de Larche. Il passe la frontière italienne avec son armée, des milliers de soldats, chevaux, canons. C'est une épopée inédite à l'époque. Et cette épopée, elle a toujours fasciné nos deux passionnés qui ont donc décidé de la vivre en fait eux-mêmes, cette aventure, de la reconstituer. Alors, vous allez voir, ils ont pris les choses très au sérieux. Ils ont fait fabriquer leurs armures par un forgeron. Le métal, c'est sensiblement le même que celui qu'utilisaient les forgerons de l'époque. Les pièces des armures ont été reproduites à l'identique. C'est un vrai travail d'orfèvre qu'ils m'ont d'ailleurs présenté avec beaucoup de fierté. Écoutez, donc, on est à quelques jours avant le grand départ.
Là, par exemple, vous avez les gantelets, c'est-à-dire ce qui protège les mains, qui sont bien articulés et qui permettent de se saisir d'une arme.
Vous allez aussi avoir le casque, c'est ça?
Alors le casque, ouais, il est là, il fait plus de 2 kg, rien que ça. Si vous voulez le mettre, vous allez voir tout de suite. Il faut bien relever la visière. Attention les oreilles, on y est là.
On a la sensation un peu d'un casque de vélo, mais un peu plus lourd. Quoi.
Un peu plus lourd, oui.
C'est là la grosse difficulté ensuite de marcher avec ces parties métalliques au niveau des jambes qui ne sont pas faites pour marcher justement.
Parce que là, par exemple, si vous me faites quelques pas avec, là...
Donc là, ça avance, on marche. Mais comment ça va se passer au bout de quelques kilomètres dans la montagne? Ça, ça va être moins évident.
On imagine le poids qu'ils ont sur le dos?
Alors, c'est les deux armures. Il y en a une qui est un peu plus légère. C'est l'armure du soldat à pied qui fait un peu moins de 20 kilos. Par contre, l'armure du soldat à cheval avec un casque qui couvre intégralement le visage, notamment. Là, c'est 40 kilos de fer d'armure sur le corps.
Alors, c'est pas juste un jeu. C'est pas se remettre dans la peau des soldats qui ont fait, puisque vous nous avez dit, hein, 1515 Marignan. J'imagine qu'au final, on aboutit à ça. C'est pas juste... le plaisir de jouer aux soldats de la Renaissance.
Effectivement, et c'est là que peut-être leur aventure prend tout son sens. En fait, c'est un vrai travail de recherche scientifique qu'ils mènent, parce qu'en endossant le poids de l'armure, en se déplaçant avec dans les chemins de montagne escarpés, avec du dénivelé, ça leur permet en fait de ressentir ce qu'ont pu vivre les soldats de l'époque, et par exemple de vérifier la véracité des manuscrits qui relatent cette traversée, parce que cette traversée elle a été totalement inédite. Il s'agissait pour l'époque d'une performance logistique, physique et morale extraordinaire. Donc pour avoir des éléments précis, ils ont testé leurs armures en laboratoire, avec des capteurs. Il a fallu régler au millimètre la construction de ces armures pour éviter que les angles, parfois tranchants avec le métal, cisaillent le pied ou la cuisse en marchant. Vous voyez, ça n'a vraiment rien d'un jeu. Écoutez.
Le but, c'est pas de jouer au chevalier, c'est d'expérimenter ce que ça pouvait représenter d'avoir cette contrainte métallique sur soi et dans un milieu complètement inadapté à l'armure qu'est la montagne. Ce qui nous permet de ressentir des choses pour mieux les comprendre. Pour un historien, c'est un rêve de revenir dans le passé. Donc quelque part, là, l'archéologie expérimentale permet d'abolir un petit peu cette distance qui nous sépare du passé.
Et ils en sont où justement de cette archéologie expérimentale, Martin ?
Eh bien, c'est en cours, là, puisqu'ils sont partis ce matin de Maljacé. Donc là, ils doivent être sur les chemins, dans les Alpes de Haute-Provence. Ils sont accompagnés d'autres passionnés d'histoire en costume, mais qui, eux, ne font pas vraiment partie de l'expérience scientifique. Donc on espère qu'ils vont arriver au bout, parce qu'en 1515, la traversée avait fait des victimes. Alors, pas parmi les soldats, mais parmi les chevaux. Donc on se rassure pour nos deux chevaliers. Évidemment, un médecin les suit pendant tout le périple pour assurer que tout se passe bien.
Merci beaucoup Martin Fenot et merci de nous avoir fait sillonner la France toute l'année avec Carole Ferry pour nous raconter les coulisses dans tout terrain de votre chronique. Vous êtes tous ce matin et bonnes vacances.
Merci Fabienne et un petit mot aussi pour remercier Capucine Patouillet qui nous a aidé à trouver les sujets, à organiser les reportages. C'est une collaboratrice précieuse pendant toute cette année de reportage.
Je confirme, puisque c'est aussi la programmatrice et l'assistante de Tout Terrain. Merci beaucoup Martin Fenot.
À bientôt Fabienne.
Europe 1.
Et pour finir Tout Terrain, direction la Provence et la montagne Sainte-Victoire au cœur des paysages de Cézanne comme un air de vacances.
Il est 13h46, la suite et fin de Tout Terrain, Fabienne Lemoyle.
Et pour terminer Tout Terrain, je vous emmène au pays de Cézanne, à Aix-en-Provence, avec ce paysage si caractéristique de la montagne Sainte-Victoire, imposante, qu'il a si souvent peint. Bonjour Diane Chenouda.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Et décidément, cette montagne est toujours aussi inspirante au point, et c'est une démarche passionnante que vous allez nous raconter, que le musée Granet d'Aix-en-Provence a demandé à une artiste contemporaine, cette fois, Fabienne Verdier, de partir sur les pas de Cézanne. Racontez-nous.
Oui, alors écoutez, cette artiste, c'est Fabienne Verdier, grand nom de la peinture abstraite. Alors c'est vrai, moins connue que Soulages, et pourtant, qu'est-ce que c'est beau. Elle a un parcours incroyable. incroyable. Elle est partie très jeune en Chine. Normalement, c'était pour un an. Et finalement, elle y a passé 10 ans, figurez-vous, pour apprendre la calligraphie, des années à dessiner le même trait. Puis elle s'en est libérée, hein, même si ses peintures sont imprégnées de calligraphie. Ce sont de grandes toiles abstraites, traversées de cercles, de spirales, de signes, brossées à grands traits de peinture acrylique. Alors là, c'est la première fois que son travail, 40 ans de peinture, est exposé dans plusieurs lieux d'Aix-en-Provence.
Alors justement, comment elle a travaillé? Je crois que c'est assez incroyable.
Ah oui, c'est incroyable, Fabienne. Elle a passé un an, l'an dernier, sur les lieux mythiques de Cézanne, en pleine montagne Sainte-Victoire. Sur le plateau de Bibémus, elle a loué une maison pour s'imprégner complètement de ce paysage qu'elle ne connaissait pas bien. Elle a même passé plusieurs nuits au sommet de la montagne avec les gens du coin. C'était la première fois qu'elle sortait de la solitude de son atelier, qu'elle peignait in situ, comme on dit, vous savez, sur le motif, au milieu des pins et des rochers. Elle a bataillé pendant des semaines avec les éléments. Écoutez Fabienne Verdier, que j'ai eu la chance de rencontrer.
Des semaines de froid, de pluie, de grêle, de coups de tonnerre. Pendant 6 semaines, ça a été absolument effroyable. Et j'ai compris pourquoi Gauguin ou Van Gogh pouvaient devenir fous. Mais un jour, il s'est passé un petit miracle. Il y avait un vent de 86 km/h. Et j'ai commencé à jouer avec le vent. Et là, tout à coup, j'ai vu qu'il pouvait m'aider à peindre le tableau.
On n'imaginerait pas, Diane, un temps aussi tourmenté dans cette belle terre de Provence. Donc, elle a dû jouer avec la pluie, le vent, qui martelait ses toiles, c'est ça?
Voilà, exactement. Un peu comme, vous savez, Yves Klein, qui avait traversé toute la France, avec sur le toit de sa voiture une toile battue par la pluie, le vent. Et il en avait fait peinture. Fabienne Verdier, eh bien, s'est rendu compte de la même façon que le vent faisait vibrer, frissonner la toile. Et ça donne une série vertigineuse, hein. Donc on la voit, cette Sainte-Victoire, peinte à grands traits de peinture noire. Elle a beau être abstraite, on l'a devant nous, hein, suspendue, elle surgit du vide. C'est très très beau.
Ce sont des pans minérales de la montagne, 2 pans, un à gauche, un à droite et une grande faille. Vous avez vu, regardez dans la matière de la montagne, le vent a creusé des sillons, des petites rivières qui tombent de la roche. Là, on voit la structure de la montagne qui est totalement martelée par la grêle. Et puis évidemment, comme j'étais dans une bataille avec les éléments, on sent toutes les traces que je courais sur la toile. Il y a parfois aussi encore des petites aiguilles de pin et du sable de la vallée d'Arc.
C'est incroyable, Diane, on a vraiment l'impression qu'elle a joué avec les éléments, qu'elle a presque laissé les éléments peindre à sa place. C'est-à-dire
oui.
que la toile était posée à même le sol.
À même le sol, en pleine nature, une immense toile, et effectivement, elle se laisse porter. Cette immense toile est surmonté d'un immense pinceau, mais énormissime, qui pèse plus de 70 kilos quand il est rempli de peinture, et surmonté, figurez-vous, d'un guidon de vélo de course. C'est une technique incroyable qu'elle a inventée il y a quelques années.
J'ai greffé un guidon de vélo pour pouvoir être plus libre dans l'espace. Et maintenant, je peins de plus en plus en traversant l'espace de mes toiles qui sont au sol. Et plus ça va, plus je ne peins plus qu'avec tout le corps, les deux mains, comme un musicien. Et c'est tout le corps qui se déplace dans l'espace. Et le bruit que ça fait quand on déplace le pinceau dans l'espace. Voilà la liberté que permet le guidon de vélo. Le fait de pouvoir peindre, non plus avec seulement la main droite, mais avec les deux mains. Donc je suis toujours sur le pinceau, comme si j'étais en avion, et je vois la terre vue du ciel.
Mais oui, c'est incroyable, c'est hyper ingénieux, vous voyez. Et ça, cette technique, disons, avec cette toile comme ça au sol, et cet immense pinceau fait de 20 queues de cheval, eh bien ça, on peut le voir au musée du pavillon Vendôme, toujours à Aix-en-Provence. Donc c'est très fascinant. Elle utilise aussi une autre technique, comme une douille de pâtissier, pour faire couler la peinture sur la toile au compte-gouttes, vous voyez. Et la peinture éclate, se disperse sur la toile, un peu à la manière d'un Jackson Pollock. Et alors, quand vraiment le temps était épouvantable et qu'elle ne pouvait pas peindre en plein air, eh bien, Fabienne Verdier se réfugiait dans une petite cabane et ça donne de très belles gouaches.
Et j'ai pris grand, grand plaisir à peindre en fermant les yeux et en tentant de capter l'esprit des petits chemins de Provence. Et ces rochers, ces vieux pins tortueux, calcinés par le vent, la chaleur, le feu, mon pinceau a de lui-même chanté cette nature.
Elle peint d'un seul trait, d'un seul coup de pinceau, hein, comme le faisait Matisse.
Et c'est vrai que ce qui est impressionnant avec la montagne Saint-Victor et qu'on comprend que ça l'a inspiré, c'est qu'il y a un aspect très graphique de cette montagne. On le verra à travers vos photos sur Twitter, Diane. Elle travaille aussi en musique, Fabienne Verdier.
Oui, elle peint avec beaucoup d'artistes différents et elle peint en s'inspirant, par exemple, des suites provençales de Darius Milhaud, qui écoutait beaucoup le chant des cigales, comme elle.
En écoutant ces cigales qui se mettent à chanter toutes au même moment, à 27 degrés exactement, en écoutant ce chant, j'ai composé ce tableau là sur fond vert.
Et c'est vraiment très très beau. Enfin, il ne faut pas manquer la Cité du Livre, hein, Fabienne, toujours à Aix-en-Provence. Vous avez là un film vraiment fascinant. Elle a improvisé avec un quatuor dans une église, ça a été filmé, on la voit peindre sous nos yeux. En fait, chacun y voit ce qu'il veut évidemment.
Merci beaucoup Diane Chenouda de nous avoir fait partager ce paysage si magnifique de la montagne Sainte-Victoire.
Ah oui,
on peut découvrir l'étoile de Fabienne Verdier effectivement sur les terres de Cézanne à Aix-en-Provence jusqu'au 13 octobre.
C'est à ne pas manquer, vraiment.
Et c'est l'occasion aussi d'aller faire un tour dans cette superbe région et pourquoi pas de gravir la montagne. Merci Diane Chenouda d'avoir été avec nous pour cette dernière de la saison.
Avec beaucoup de plaisir Fabienne.
Europe 1.
Et voilà, Tout Terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Didier François, Jean-Gabriel Bourgeois, Victor Delande, Martin Fenot et Diane Chenouda à l'instant. Un grand merci aussi à Kevin Ousty qui a mis en onde avec talent toute l'année cette saison Tout Terrain. Un grand merci encore à Capucine Patouillet, si précieuse pour la coordination et pour ses suggestions. Et puis, vous l'avez entendu, c'est la dernière de la saison. Alors j'associe mes remerciements à toute la rédaction d'Europe 1, à tous ces reporters qui, semaine après semaine, avec la même passion, vous ont raconté les coulisses de leurs reportages, qu'ils soient au bout du monde ou en France. Et c'est avec un grand plaisir que l'on se retrouvera à la rentrée pour une nouvelle saison de Tout Terrain. Et je ne vous oublie pas, Marlène, vous qui m'avez accompagnée toute l'année en studio. Demain à 13h, vous ouvrirez les carnets du monde avec Sophie Larmoyer.